Voilà, je suis heureux de vous saluer, heureux d'avoir partagé déjà ce temps de culte avec vous, ce temps d'annonce aussi concernant l'Église persécutée. Vous allez voir qu'il y a un lien entre ce qui a été partagé au début de ce moment et le thème de mon message maintenant. Ma fille Lydie était au week-end Portes Ouvertes la semaine dernière. Elle y est chaque année. Elle a déjà fait des voyages avec Portes Ouvertes. Elle a ça très à cœur également. Juste peut-être dire que je suis là parce que Étienne m'a invité déjà, pardon, Alex m'a invité. Normalement, je vais venir plusieurs fois, si Dieu permet, jusque d'ici le mois de mai ou juin, je ne sais pas. Ça dit quelque chose de l'estime qui existe entre nous, Alex et moi. Hein. Voilà, c'est une grâce. Et ça permet, ça se traduit en soutien pour lui, et puis pour vous, et puis pour l'œuvre de Dieu. Je suis habitué à prêcher devant des grandes assemblées ou des petites assemblées, et vraiment, je crois que pour Dieu, il n'y a pas de différence entre une petite et une grande assemblée. J'ai envie de dire ça. Voilà, les deux sont aussi précieuses l'une que l'autre. Et probablement nos frères et sœurs persécutés pourraient dire quelque chose de semblable, eux qui peuvent vivre aussi de grands rassemblements ou de toutes petites rencontres clandestines. Et je suis sûr qu'ils ont ce témoignage au fond de leur cœur que dans les deux cas, Dieu est au milieu d'eux et que cela ne change rien ni à la foi, ni à l'espérance, ni à la grâce, ni même à la puissance de Dieu. Le thème que j'ai annoncé à Jonah, qui est inscrit sur le programme, c'est un rapport avec l'Église, avec la tête de l'Église, avec le corps de l'Église et avec les membres de l'Église. Je ne pense pas que je vais dire des choses tellement nouvelles, mais voilà, ça me paraît un sujet tellement sensible, tellement central, tellement profond, que je pense que ce sera utile de rappeler certaines considérations bibliques autour de cette réalité. Je dirais que c'est plus qu'une image, c'est une réalité de la tête et du corps de l'Église. Et évidemment, probablement pendant que je m'exprimerai là, vous verrez le lien avec ce qui a été partagé au début, donc c'est-à-dire quand ce corps souffre, tout simplement, eh bien Christ souffre. Et quand ce corps se réjouit, est honoré, Christ se réjouit avec lui. Le support de mon message se trouve dans la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12. Corinthiens 12, verset. Alors, je vais lire plusieurs séquences dans ce chapitre. Tout d'abord, les versets 3 à 7. Ça nous met un peu dans la situation d'église persécutée, hein, ces déflagrations qu'on entend là. C'est étonnant. Voilà, je lis à partir du verset 3. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 3 d'abord. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème ou maudit. Que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères ou de services, on pourrait dire. Hein, ça englobe des services très différents, probablement, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, dit ma traduction, on pourrait dire diversité d'œuvres. Évidemment, il y a aussi une très grande diversité d'œuvres, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Je lis les versets 11 et 12. Un seul et même esprit, c'est la même pensée hein, qui est redite là, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un, et à plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Je lis encore le verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Et enfin, les versets 24 à 27. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Quelquefois, après des lectures comme ça, j'ai envie de dire, voilà, c'est terminé, je m'assois. On va simplement laisser ces paroles résonner en nous et faire leur travail. Et ma crainte, c'est que la prédication gâche un petit peu le bénéfice de la lecture. J'espère que ce ne sera pas le cas. Je voudrais d'abord retenir le verset 12. Je le relis. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Si je me fais mal au doigt, en me piquant avec une aiguille ou en tapant avec un marteau, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire aïe. Mais c'est pas le doigt qui dit aïe, c'est moi. Et notamment ma tête. C'est la tête qui dit aïe. Le doigt a mal et la tête dit aïe. Ça, n'importe qui peut faire cette expérience sans beaucoup de calcul, n'est-ce pas? C'est même instinctif, c'est spontané. Donc, le doigt a mal et la tête dit « je me suis fait mal ». On pourrait dire aussi « j'ai mal au doigt ». On peut dire « j'ai mal au doigt » ou « je me suis fait mal au doigt ». Mais on peut dire aussi « j'ai mal, voilà, j'ai mal au doigt » ou « le doigt me fait mal ». Enfin, toutes ces expressions très familières nous parlent du lien extrêmement, c'est plus qu'un lien, enfin, une relation intime et profonde, inévitable, entre chaque membre du corps, y compris les membres cachés, les membres secrets qu'on ne voit pas, et le corps tout entier avec la tête. Puisque on n'imagine pas le corps sans la tête, bien évidemment. Ce qui est singulier dans ce verset que nous voulons de relire, d'entendre, c'est que Paul appelle Christ la tête et le corps. Dans notre représentation habituelle, on dit, voilà, Christ c'est la tête, d'accord ? Nous sommes le corps, ou plutôt, chacun de nous est un membre du corps, et ensemble, nous formons le corps de Christ. C'est pas faux de penser comme cela, n'est-ce pas ? Voilà, nous sommes le corps, Christ c'est la tête, on est ensemble, effectivement, et en même temps, on désire être davantage avec lui, et puis surtout qu'il revienne, ou qu'on soit avec lui, n'est-ce pas ? Viens Seigneur Jésus. Donc ça nous parle d'une unité et d'une séparation quelque part. Nous vivons tous cela dans l'espérance et dans la souffrance quelque part, n'est-ce pas? C'est le Viens Seigneur Jésus de la fin de la Bible. Mais là le texte dit quelque chose d'un peu différent. Le texte dit, je relis, hein, comme le corps est un et a plusieurs membres. On est d'accord avec ça? On parle notre, c'est aussi l'aumônier hospitalier qui parle là quelque part, hein, que, en voyant des corps souffrants parce que un membre souffre, par exemple le col du fémur est cassé, tout le corps est allongé, voilà, c'est comme cela. Donc, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme malgré leur nombre, les membres ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous remarquez avec moi que Paul appelle Christ non seulement la tête, mais la tête et le corps. C'est tout un. On attribue à Jeanne d'Arc cette parole, mais ta vie, que Christ et l'Église, c'est tout un. Eh bien, je pense que, enfin, je pense, il me semble constater que Paul fait cela ici, et donc il dit plus que ce que nous sommes tentés de comprendre habituellement. Voilà, ça veut dire que ce qui me touche, hein, touche mon Seigneur, non pas indirectement, non pas parce qu'il est simplement témoin de quelque chose qui se passe, mais ça le touche. Directement, voilà, directement. Il est à la droite du Père, nous sommes sur la terre, et nous sommes aussi déjà avec lui, il est toujours avec nous, n'est-ce pas? Il y a le verbe demeurer qui nous parle de cette présence, on pourrait dire, indestructible de nous avec le Christ, du Christ avec nous, et en un sens de la commune condition. Je vais citer maintenant deux, trois passages qui nous montrent les implications concrètes et pratiques de cela. À mon avis, ce n'est pas la peine de chercher dans la Bible parce que ce sont des passages très courts que je veux citer. Tout d'abord, un passage, on pourrait dire, positif. Après, je lirai un passage négatif. Le passage positif, je le trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 10. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci. Et nous pourrions entendre cette parole pour nous aussi, vraiment. C'est une parole qui pourrait s'adresser à nous directement. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom en ayant rendu et en rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre amour. Et ce que vous avez fait pour son nom c'est lui-même, parce que vous avez rendu et vous rendez encore des services aux saints. Les saints, nous savons ce que c'est. Normalement, ici, ce sont les membres du corps de Christ, hein. Les petits, les grands, ceux qui vont bien, ceux qui vont mal, tous, sans exception. Ce sont des saints, ils sont appelés des saints. D'autres diront, en cet endroit, on dira les frères dans la foi. Voilà. Rendre service aux saints. Vous êtes d'accord, ça peut se faire de multiples manières. Là, par la grâce de Dieu, je suis en train de rendre service au saint quelque part, n'est-ce pas? Voilà, j'ai fait quelques kilomètres pour vous servir. Mais en priant pour moi, le frère Jonas a été mon serviteur, n'est-ce pas? Mon soutien. Quand Paul dit, priez pour moi, pour que quand je parle, j'annonce hardiment la parole de Dieu, il demande un soutien, il demande un service. Mais ces services peuvent être, ça peut être un verre d'eau donné à l'un de ces petits qui croient, n'est-ce pas? Un verre d'eau, c'est un service. Voilà, les services, c'est une parole, c'est un geste, c'est un accueil, c'est une attention. Il y a infinité de services possibles. Ce texte nous dit, en ayant rendu service aux saints, vous avez témoigné de l'amour pour le nom de Dieu. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous avez fait pour lui. Et la leçon que je retiens de ce qui est dit là, c'est que quand nous faisons du bien à un membre du corps de Christ, c'est bien, mais c'est encore plus bien que ce que nous avons imaginé probablement. La répercussion, la portée, l'écho de ce bien que j'ai fait, petit ou grand, dans les deux cas, va plus loin que ce que j'aurais pu imaginer dans un premier temps, ce que mes yeux ont vu. Ce texte nous instruit sur une réalité invisible, celle du lien qui unit la tête et chacun des membres. La tête est le corps, mais la tête est chacun des membres. Hein? Je reviendrai sur le tous et le chacun à la fin de ce message. Voilà. Qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Mais là, cette référence du livre de Zacharie, introduit mon deuxième exemple qui malheureusement est négatif, mais c'est important de l'entendre aussi. Je lis dans Lévitique, chapitre 5, verset 21. Le contexte de cette parole, c'est le peuple de Dieu. Hein. La loi est donnée au peuple de Dieu. Le contexte, c'est le type de relation qui existe au sein du peuple de Dieu. Lorsque quelqu'un péchera, et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son prochain. J'arrête là ma lecture. Le mot prochain, dans ce contexte, désigne les membres du peuple de Dieu, les concitoyens. Les membres du peuple de Dieu et ceux qui sont inclus, les étrangers, inclus, accueillis, assimilés au peuple de Dieu. Donc c'est large, mais c'est défini tout de même. Hein. Mon avis personnel, je le dis comme ça, c'est que le mot prochain, même dans le Nouveau Testament, a ce sens-là. Et pas forcément le sens général et universel qu'on lui donne la plupart du temps. Voilà. Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain, et là aussi, on peut dire, l'impact de ce qui a été fait en mal était plus grand que ce qui semblait dans un premier temps. J'ai menti à quelqu'un, mais j'ai péché contre l'Éternel. Voilà. Notamment au sein du peuple de Dieu, au sein du peuple saint, en quelque sorte, on pourrait dire. Voilà. Nous voyons une illustration, une application de cela très frappante, je trouve, avec l'épisode de la conversion de Saul de Tarse. Hein, quand Saul persécutait quelques chrétiens sans apparence, quelques-uns, il en restait quelques-uns, en tout cas dans cette contrée, enfin, Saul disait, mais voilà, il nous casse les pieds, on va les faire taire, on va les intimider, encore un peu de temps, on n'en parlera plus. C'était une affaire réglée, peut-être, à ses yeux, n'est-ce pas? Un peu de choses. Voilà. Et Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ah, il ne pouvait pas imaginer que ça allait si loin. Il ne croyait même pas en Jésus. Il croyait que Jésus était mort, qu'on avait volé son corps, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas imaginer. Ça peut nous rappeler cette parole de Jacob après le songe, vous savez, l'Éternel était là et je ne le savais pas. Après l'image de l'échelle. Voilà. Et donc, en positif ou en négatif, ce que nous faisons vis-à-vis de nos frères et sœurs en Christ, a une portée très grande. Cela doit nous rendre extrêmement sensibles, dans un sens comme dans l'autre. Paul reprend cette pensée encore à deux reprises dans ses lettres, 1 Corinthiens 8 et Romains 14. Romains 14 et 1 Corinthiens 8, quand il parle des faibles dans la foi. Les faibles dans la foi sont des chrétiens, n'est-ce pas? Et les chrétiens, ce n'est pas que les forts dans la foi. Les chrétiens, c'est aussi les faibles dans la foi, mais ils sont dans la foi, et donc ils méritent des égards. N'est-ce pas? Notamment si on se rappelle ce que nous avons lu tout à l'heure, si un souffre, tous souffrent. Si un est honoré, tous sont honorés. Alors ça concerne tout le monde, y compris les forts dans la foi, s'il y en a, mais ça concerne aussi les faibles dans la foi, qui sont plus vulnérables, qui sont plus fragiles, qui vont être bousculés plus facilement, n'est-ce pas? Voilà. Si un est bousculé, tous vont souffrir, même si ça ne se voit pas. J'ai envie de rajouter cela. Parce que quand Jésus-Christ est persécuté par Saul, ça ne se voit pas. Et c'est pourtant une réalité véritable. Voilà. Cette parole a bouleversé Saul de Tarse quand même. C'est une prédication, la plus courte prédication de l'histoire de l'Église peut-être. Hein. Voilà. Franchement, très courte prédication, et Saul était cassé. Voilà. Et alors, Paul... Le même Paul dit dans 1 Corinthiens 8, versets 11 et 12, « Ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère ou la sœur pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre des frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. » Donc on ne voudrait pas pécher contre Christ, n'est-ce pas? On vient de chanter des cantiques pour lui dire qu'on l'aimait, on vient de prier pour lui dire qu'on voulait faire sa volonté, qu'il était le Seigneur de notre vie, que nul n'était comparable à lui, on ne veut pas pécher contre lui. Et voilà. Et Paul dit, vous péchez contre Christ en troublant, en étant une occasion de difficulté, en ajoutant à la peine, sans le vouloir. En apparence, légitimement, c'est-à-dire en faisant quelque chose que vous auriez le droit de faire, hein, mais en le faisant, vous causez de la peine à un frère plus faible. Et ce frère, il est membre du même corps, et il est lié à la tête par un même lien. Voilà. Ce qui le touche, touche ton Seigneur, votre Seigneur commun. Voilà. Péché contre Christ, on ne le voudrait pas. Alors, je termine par un exemple positif, toujours dans cette énumération de textes qui illustrent ces liens extraordinaires entre chaque membre et le corps, entre chaque membre et Christ. C'est une parole qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10. Celui qui vous reçoit, moi je pense souvent à ce verset, en tant qu'aumônier hospitalier, en visitant des chrétiens, souvent des chrétiens dans les chambres d'hôpital. Mais pas toujours des chrétiens, en tout cas des gens, je ne sais pas toujours où ils en sont, n'est-ce pas? Celui qui vous reçoit, ça nous concerne, n'est-ce pas? Celui qui vous reçoit, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Je trouve ça assez vertigineux, finalement. Je dis cela. Celui qui vous reçoit, n'importe lequel d'entre nous, en qualité de chrétien, conscient. Peut-être pas toujours conscient de quoi il retourne, mais quand même, enfin, qui vous reçoit me reçoit, dit Jésus, et qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. C'est très grand. C'est beaucoup plus grand que ce qui semble. Parce que celui qui est reçu au départ est peut-être quelqu'un sans apparence. Il est peut-être fatigué, il est peut-être malade, il est peut-être mal habillé, il est peut-être sale. Peu importe, ça ne change pas. L'apparence ne change pas. C'est aussi pourquoi, au début de l'épître de Jacques, hein, Jacques dit, vous prenez attention, si quelqu'un rentre dans l'église, hein, s'il est bien habillé, vous lui dites, assieds-toi devant. S'il est en piteux état, vous lui dites, restez derrière. Hein. Mais est-ce que Dieu fait des différences comme cela? Et nous pouvons reconnaître que nous sommes malheureusement sujets à ces jugements qui se fient sur des apparences, selon l'habillement, la stature, l'air qu'on se donne, etc. Et nous oublions que le regard de Dieu est peut-être différent du nôtre. Voilà. Qui vous reçoit, me reçoit, dit Jésus. Et donc ça me concerne aussi. Ça concerne quelqu'un d'autre qui vient dans ma maison. Quelques-uns ont hébergé des anges sans le savoir. Mais ça me concerne moi aussi, celui qui me reçoit. Et c'est vrai pour chacun de vous, si vous appartenez à Christ. Celui qui vous reçoit. Même si vous n'allez pas bien, mais vous n'êtes pas content de vous, vous n'êtes pas content de vous, mais vous êtes quand même un membre du corps de Christ, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de prouesse ou de niveau, de qualité de vie chrétienne. C'est une question de nature. Voilà, celui qui vous reçoit fait quelque chose de plus grand que ce qu'il pense. Si je résume cette première partie de mon message, ou si je cherche à en tirer, à en résumer les leçons, je dirais ceci, une double leçon, il y a une unité inimaginable entre chaque chrétien et le corps, et entre chaque chrétien et Christ, en tant que la tête de ce corps. C'est l'unité, on pourrait dire en un sens, il n'y a pas de distance. J'ai envie de le dire comme cela. Nous pouvons imaginer une unité avec une distance. Comme les célibataires géographiques, vous voyez, avec Skype, je sais pas quoi, maintenant on peut communiquer, mais enfin on pourrait dire avec Christ, c'est comme ça. Mais je pense que cette image est partiellement vraie, parce que nous croyons en lui sans le voir, c'est vrai, et un jour nous le verrons. Donc il y a un pas encore de l'achèvement de l'œuvre de Christ, et en même temps, il y a un déjà, il y a un déjà, c'est-à-dire déjà, il n'y a pas de distance entre Christ et chacun de nous. J'ai envie de le dire comme cela. Déjà qu'il n'y a pas de distance entre Christ. Et ça me parle concernant ma propre condition, mais concernant aussi le regard que j'ai sur les autres. Et donc l'implication, une des implications, c'est que tout ce que l'on fait en bien ou en mal à un membre du corps de Christ, alors quelquefois, certains disent à cela, mais et ceux qui ne sont pas du corps de Christ, eh bien, évidemment, ils sont importants aussi. Mais là, le texte parle des membres du corps de Christ, c'est ainsi, n'est-ce pas? On n'est pas dans des considérations humanitaires ou sociales, on est dans des considérations en rapport avec le royaume de Dieu, avec la personne de Jésus. Voilà. Ce que l'on fait en bien ou en mal à un membre du corps de Christ, que ça se voit ou que ça se voit pas, en bien ou en mal, on le fait à Christ. Et les implications que j'en retire pour moi-même de ces deux leçons, hein, l'unité le fait que Christ soit concerné ainsi, quelles précautions je devrais prendre, hein, pour ne pas faire de mal à un membre du corps de Christ, quel qu'il soit. Et combien je dois veiller à cela? Paul dira dans 1 Corinthiens 6, mieux vaudrait se laisser dépouiller que d'avoir des querelles entre frères. Entre frères. Toujours entre... À mon avis, la règle est différente à l'extérieur. Mais entre frères, mieux vaudrait se laisser dépouiller que d'avoir des querelles. À mon avis, je dis à mon avis, tendre l'autre joue, c'est dans ce contexte fraternel aussi. Voilà. Et quel zèle nous devrions avoir pour faire du bien à nos frères et nos sœurs, avec les dons que Dieu nous a accordés. Quel désir, quel empressement, quelle attention, non pas pour faire plus que ce que Dieu demande, parce que plus n'est pas mieux que pas assez, n'est-ce pas? En faisant plus, on peut faire des sottises, on le fera tout seul. Mais tout ce que Dieu me donne de faire, hein, que je puisse le faire, hein, et que je sois attentif à cela, que je sois disponible de cela, et que ce soit une grande occasion de joie. Que ça devienne une grande occasion de joie pour celui qui le reçoit, pour moi, si c'est à moi de le faire, hein, et pour le Seigneur. Et pour le Seigneur qui est honoré directement. C'est une manière d'aimer le Seigneur directement que de servir nos frères et nos sœurs dans la foi, quelles que soient leurs conditions. Je veux, pour terminer, revenir sur les autres versets que j'ai lus dans ce chapitre 12 de la lettre aux Corinthiens. Je ne vais pas tout relire, mais je vais quand même rappeler ces versets se répéter en quelque sorte. C'est par le même esprit qu'on peut dire Jésus est le Seigneur. C'est par le même esprit que les dons divers sont répartis. C'est par le même Seigneur que les services. Le terme est traduit par ministère, mais ça veut dire service, n'est-ce pas? Je pense que dans le grec, c'est le mot diaconie. Et le mot diaconie, c'est la manière de servir dans l'Église. Mais le même Seigneur, c'est par le même Dieu que les œuvres sont rendues possibles. Le même Dieu opère toutes ces choses, distribuant à chacun comme il veut. Voilà, distribuant à chacun comme il veut. Donc on n'a jamais vu un corps s'organiser tout seul. Voilà. C'est la tête qui permet au corps de se coordonner en toute chose. Voilà. Ça, nous le vivons même sans y penser. C'est vrai dans la réalité de l'Église également. Et donc le rappel que je formule ce soir est celui-ci. Dieu est à l'origine entièrement de tout ce que l'Église est, de tout ce qu'elle vit. Si je devais prendre une image, je dirais, l'Église n'est pas comme une boule que Dieu a lancée en disant, ben maintenant, qu'elle roule, on verra où c'est qu'elle va arriver. Mais le même Dieu opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et ce Dieu a distribué dans le corps les membres comme il a voulu. Et dans un corps, finalement, il y a des membres qui sont plus utiles que d'autres, mais apparemment, aucun membre n'est inutile. On peut se passer d'un membre, on peut se passer d'une main et même d'un œil. Mais quand même, le corps est. S'il manque un membre, quel qu'il soit, il y a un handicap, il y a une meurtrissure, voilà, il faut que les autres membres pallient, en quelque sorte. Voilà. Et donc, Dieu opère toutes ces choses. Aucun membre n'est membre de Christ sans Christ. Aucune œuvre ne se fait, aucun don ne se manifeste, aucune grâce, aucun discernement, aucune capacité, aucun secours n'est possible qui ne vienne de Dieu. Voilà. Dieu est à l'origine de tout ce que l'Église est et de tout ce que l'Église vit. Il me semble que ça peut être un très grand sujet d'encouragement. Il n'y a pas d'autonomie de l'Église. Voilà, il n'y a pas d'autonomie de l'Église. Combien on est loin du modèle associatif, par exemple, qui souvent s'est imposé dans la conception qu'on peut avoir de l'Église. Une association s'autogère, hein, elle définit elle-même sa nature, ses projets, son objectif, ses limites, son règlement intérieur. Elle s'autogère. Si l'Église n'est qu'une association, Dieu peut s'en aller. On gère, on le dit comme cela, hein, on assume, on s'organise, on fait ce qu'il faut. Voilà. Dans l'Église, comme corps de Christ, c'est inimaginable, c'est inconcevable cela. rien de vrai, rien de juste, rien de bon, rien de pur, rien de secourable, rien de véritable n'est possible sans que Dieu en soit l'auteur et la source, et même le moyen. Enfin, c'est lui qui va rendre toutes ces choses véritables. Et ce texte nous affirme que Dieu opère. On est dans le même temps qu'aujourd'hui. Hein, donc ces vérités sont tout à fait valables pour aujourd'hui, comme au temps de l'apôtre Paul. C'est le même temps, à très peu de différence près. Et c'est pour nous, je pense, un très grand sujet de reconnaissance. Deux remarques encore. Hein. L'unité et la diversité. Voilà, diversité de ministères, de services, diversité de dons, diversité d'œuvres, un même esprit, un même Seigneur, un même Dieu. Voilà. La création déjà, c'était comme cela. Et c'est comme cela dans la nouvelle création. La diversité, je pense, nous sommes tous d'accord d'en reconnaître la réalité. Nous sommes divers les uns et les autres, et tant mieux. Je me demande si nous sommes toujours en mesure de vivre cette diversité avec autant de liberté, autant d'accueil, autant de reconnaissance qu'il le faudrait. Je crains, si je regarde mes propres réactions, que nous voyons aussi la diversité comme une menace. Pourquoi il est différent de moi? Pourquoi moi je voudrais toujours rassembler et lui il dit il faut se disperser? Même entre les ministères, il y a cette tension possible, vous voyez, entre le docteur et l'évangéliste. Il y a une tension. Le docteur dit il faut étudier, l'évangéliste dit il faut dire Jésus est vivant, c'est tout. Il faut voilà, le pasteur dit il faut consoler, le prophète dit il faut bousculer. Alors les ministères se contrarient et ça peut se traduire par des tensions et quelquefois par des querelles difficiles. Et le même Dieu opère tout en tous, distribuant à chacun comme il veut les dons, les services, les œuvres pour l'utilité commune. Et moi, je voudrais vous inviter ce soir à voir la diversité comme un sujet de repos, et non pas comme un sujet d'inquiétude. Quand je dis diversité, je ne veux pas dire tout et n'importe quoi, évidemment. Hein. Il y a des choses qui sont hors de la diversité que Christ opère au milieu de nous. Il y a des choses qui sont de l'ordre du désordre, de l'ordre de la contradiction, de l'ordre du mensonge, de l'ordre de la trahison, de l'ordre de la séduction. Ça n'entre pas dans le cadre de la diversité, cela. Voilà. Mais cependant, reconnaissons que la diversité comprend, elle est infinie. Moi, je suis ornithologue quelque part. On n'a pas compté encore toutes les espèces d'oiseaux, sans parler des fleurs, des papillons, et puis je ne sais quoi encore. Donc la diversité, elle est très grande, elle nous parle de Dieu. Voilà. L'esprit associatif réduit la diversité en mettant ensemble les gens qui pensent pareil, qui ont le même caractère, le même niveau social. L'Église devrait refléter une très grande diversité et une très grande unité. Et donc, le fait que nous soyons différents peut bien être un sujet de tristesse, d'inquiétude quelquefois. Moi, je voudrais suggérer que ce soit aussi un sujet de repos. Pendant que je fais une chose, quelqu'un fait autre chose. Pendant que j'ai un souci, quelqu'un a un autre souci. Pendant que je m'occupe de fidélité, quelqu'un s'occupe d'accueil. Et pendant que je m'occupe de pérennité, quelqu'un s'occupe de renouvellement. Eh bien, ces choses sont légitimes les unes et les autres. Voilà. Et si nous reconnaissons Christ dans toutes ces manifestations de sa grâce, eh bien, non seulement nous verrons que nous sommes complémentaires, mais nous verrons qu'à chaque besoin correspond un secours. Et que c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu mettre en œuvre par nous-mêmes, comme seul Christ peut le faire. Voilà, l'unité et la diversité. Voilà, la Trinité nous parle un petit peu de cela. Enfin, ma dernière mention s'appuie sur deux petits mots qu'on trouve dans ce chapitre 12 d'un Corinthien, le mot chacun et le mot tous, qui reviennent souvent. Chacun, tous. Dieu distribue à chacun pour l'utilité de tous. Voilà. Et c'est comme ça dans toutes les lettres de l'apôtre Paul. Le mot chacun et tous revient très très souvent, spécialement dans ce chapitre-là. Chacun et tous Je crois que c'est tout particulièrement le souci des bergers. La parabole de la brebis perdue, voilà. Le berger veut que toutes ses brebis soient là, mais toutes ses chacunes, et il en manque une. Vous voyez? Donc, entre tous et chacun, il y a un lien. Tous, c'est chacun. Mais chacun, c'est tous. Dans la perspective du corps et dans la perspective du troupeau. On ne peut pas choisir, moi c'est tous et lui c'est chacun. Non, voilà. Et je pense que le regard de Dieu est un regard sur tous, sur la multitude des rachetés, et il est aussi attentif à chacun en particulier. C'est un sujet de très grand apaisement, cela aussi. Pendant qu'il s'occupe d'un, il ne perd pas la vision de tous. Et tous, c'est y compris nos frères persécutés. Il y a des personnes qui disent, mais moi ce que j'ai, c'est rien, il y a tellement d'autres qui ont trop de soucis. Mais toi, tu fais partie du chacun. Tu peux dire à Dieu ta peine. Même si ta peine elle est dérisoire par rapport à la souffrance d'un autre, ça ne se met pas en jeu, n'est-ce pas? C'est pas l'un ou l'autre, c'est tous et chacun. Voilà. Et le berger est heureux quand toutes ses brebis sont rassemblées. Et nous avons cette promesse tellement merveilleuse, plusieurs fois rapportée dans l'Écriture, il n'en manquera aucune. Parlant des brebis, il n'en manquera aucune. Que c'est rassurant. Ça permet au pasteur de dormir la nuit, cela. Voilà. Il n'en manquera aucune. Pour le moment, on essaye de n'oublier personne. On essaye de n'oublier personne. Mais là, vous voyez, si tout le monde a ce souci, personne ne sera oublié. Parce que Dieu rappellera à l'un celui-là qui est en menace d'isolement, et Dieu rappellera à un autre celui-là qui est aussi en menace d'isolement. Et personne ne devrait, prenant la place de Jésus-Christ, dire c'est à moi qu'il revient de penser à tous, sans qu'il en manque aucun. Vous comprenez? Là, ça serait quasiment assumer la part que Christ seul peut assumer. Donc un berger, un ancien dans l'Église devrait bien essayer de se rapprocher de ce souci-là et de faire en sorte que personne dans l'Église, même celui qu'on n'a pas vu depuis 3 mois, il est quand même un membre du corps de Christ quelque part. Est-ce qu'il est relié au corps d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il est visité? Et on a aussi besoin de lui. On a besoin de lui. Il a besoin de nous. On a besoin de lui. Voilà. Mais le Seigneur, par son esprit, dans sa grâce, va répartir ce souci entre les uns et les autres. Et quand ce souci est réparti, j'ai envie de dire, c'est la santé du corps. C'est la santé du corps. C'est-à-dire que les besoins sont perçus, et à chaque besoin, il y a une ressource disponible. Et tout vient de Dieu. Et tout est réparti. Et personne ne porte la part de deux, et personne ne dit, je suis inutile. Alors, dans mon travail d'aumônier, je visite des personnes très âgées qui se sentent inutiles. Et c'est une partie de leur souffrance. Et moi, je leur dis, c'est important que vous soyez là. Apparemment, vous êtes inutile. En réalité, vous êtes un témoin de Christ, même silencieux. Un témoin silencieux, c'est un témoin. Il porte ce témoignage dans son cœur. Il porte ce témoignage dans son cœur. On a vu tout à l'heure, hein, celui qui prie, il gêne personne. C'est un gêneur quand même. Tu arrêtes de prier. Voilà. Et celui qui prie, même s'il est dans un fauteuil roulant, une chaise, dans un lit, celui qui prie, celui qui aime ses frères et Christ, ses frères et sœurs en Christ, celui qui aime ses frères et sœurs en Christ, même s'il est dans un lit d'hôpital, il édifie, il contribue à l'édification du corps de Christ. C'est pas rien. J'ai envie de dire autant que celui qui prêche, celui qui aime dans son cœur, celui qui est disponible pour prier. Celui qui porte l'espérance en lui. Quand il meurt, il y a une étoile en moins dans le ciel. Il y a une lumière en moins sur la terre. Les ténèbres gagnent un peu plus. Vous voyez, chacun est important. Voilà. Donc ce chacun et ce tous, il nous concerne parce que nous faisons partie du chacun. Nous faisons partie du tous. Donc nous sommes au bénéfice de cet élément de la révélation biblique. Mais ça nous concerne aussi. À ma part, là où je suis, je suis un participant de l'édification commune, c'est-à-dire du fait que le corps soit en bonne santé et qu'il ne soit pas meurtri, qu'il ne soit pas souffrant à cause de ma négligence. Pas la peine de faire plus que ce que Dieu me demande. Et ce que Dieu me demande de faire, hein, il me donne sans aucun doute la ressource pour le faire. Il ne manque rien à ceux qui se confient en Dieu. Voilà. J'espère que ce message peut être encourageant pour vous, que vous trouviez du repos dans cette assurance que le Seigneur est à la source de toute cette mise en œuvre, hein, parce que c'est dans le repos que nous trouvons la force pour servir et même pour combattre, hein, et pour persévérer. Que votre force, frères et sœurs, puise dans un bon repos, dans le repos de la foi. Amen.